France Musique. Musicopolis. Octobre 1931, Berlin. La radio de Berlin s'est assurée de la première audition de la dernière œuvre de Stravinsky. Le compositeur est à la baguette, il dirige son interprète, le violoniste Samuel Douchkine. Dans ses chroniques de ma vie, il écrit « À Berlin, ma nouvelle œuvre reçut un très bon accueil. Il en fut de même dans les autres villes, Francfort-sur-le-Main, Londres, Cologne, Hanovre, Paris, où Douchkine et moi, nous la jouâmes successivement dans le courant de novembre et décembre. » Après le concert qui a vu la création du concerto pour violon de Stravinsky, avec un orchestre malheureusement peu digne de confiance, les critiques allemands ont plutôt apprécié l'œuvre, quoique certains commencent à s'élever contre ce qu'ils appellent, je cite, « une profanation de Bach qui, sous des dehors de civilité française, révèle suffisamment clairement la sauvagerie d'instinct pour moitié asiatique ». Stravinsky dirige le même concerto pour violon à Paris quelques semaines après la création berlinoise. Dans Comédia, Paul Le Flem constate que, de plus en plus, le musicien délaisse la virulence sonore qui était la sienne dans Le Sacre du Printemps. « L'accent devient plus souple, écrit-il, moins autoritaire. Un souffle tiède succède aux tornades qui balayaient cette musique. Le moscovite semble ne plus se souvenir de sa terre. Il découvre les pays méditerranéens, s'éprend plus fortement de Bach et cherche pour sa musique une unité plus formelle, dont les traditions occidentales lui offraient des modèles achevés. Progrès, arrêt, partisans et adversaires en discutent avec passion. » Si partisans et adversaires de la nouvelle manière de Stravinsky discutent avec passion, c'est que Stravinsky est l'un des compositeurs les plus connus et les plus médiatisés, dirons-nous, du moment. Cette année 1931, celle de la création du concerto pour violon, il ne se passe pas une semaine à Paris sans qu'une des œuvres du compositeur russe soit programmée. Non seulement ses classiques, ses premiers ballets, Oiseau de feu, Petrouchka et Le Sacre du Printemps, mais aussi ses œuvres récentes et même les dernières créations, Capriccio et la symphonie de psaumes. paysage culturel européen, Stravinsky est celui dont partout on suit la trace, surtout en France où il vit. On donne les comptes rendus des créations qui ont lieu outre-Atlantique, on donne les étapes de ses tournées, et chaque nouvelle œuvre est guettée avec attention. Ainsi, le journal Comédia annonce-t-il dès le 9 février 31 que Monsieur Igor Stravinsky vient de terminer un nouveau concerto pour violon dont il a confié la création à Monsieur Samuel Douchkine. Au mois de mai, on signale que le nouveau concerto pour violon de Stravinsky sera joué à l'automne prochain à Berlin par Monsieur Douchkine. En juin, il achève en ce moment un concerto pour violon qui sera créé à Berlin. L'exécution berlinoise du 23 octobre est évoquée. Enfin, le concert de la création parisienne est annoncé chaque jour pendant toute la semaine qui précède. Pas moyen de le louper. Les créations de Stravinsky s'enchaînent les unes aux autres à un rythme soutenu. En 3 ans, il vient de composer l'opéra oratorio Oedipus Rex, les ballets Apollon Musagète et Le Baiser de la Fée, les 4 études pour orchestre, le Capriccio pour piano et orchestre et enfin la symphonie de psaumes. Tout cela entrecoupé de nombreuses prestations comme chef et comme pianiste qui l'obligent à s'interrompre à tout bout de champ. Mais d'où vient donc cette idée d'écrire un concerto pour violon ? Stravinsky lui-même a décrit sa jeunesse dans son autobiographie « Chronique de ma vie musicale ». Il décrit auparavant l'année 1930. Il travaille sur sa symphonie de psaumes, tout en donnant un grand nombre de concerts dans lesquels il joue sa dernière œuvre, le Capriccio pour piano et orchestre. Une œuvre conçue tout exprès pour son propre usage, pour pouvoir tourner en tant qu'interprète. Au printemps, il le joue à Berlin, Leipzig, Bucarest, Prague, Winterthur et il dirige des concerts à Düsseldorf, Bruxelles et Amsterdam. À l'été 1930, enfin, Stravinsky peut s'installer à sa table pour travailler tranquillement sur sa symphonie de psaumes, à la montagne et à Nice, où il habite depuis quelques années. En automne, écrit le compositeur, recommencèrent mes pérégrinations qui allaient se prolonger jusqu'en décembre. Ce fut une randonnée par toute l'Europe centrale, qui commença par la Suisse, Bâle, Zurich, Lausanne, Genève, et eut pour dernières étapes Bruxelles et Amsterdam. Sans compter Berlin et Vienne, je visitais Mayence, Wiesbaden, Bremen, Munich, Nuremberg, Francfort-sur-le-Main, Mannheim, jouant presque partout mon capriccio ou dirigeant mes compositions. Le 13 décembre 1930, à Bruxelles, a lieu la création de la symphonie de psaumes. L'exécution sous la direction d'Ernest Ansermet est parfaite. Stravinsky est très touché de l'accueil qui lui est fait. Pendant qu'il est en Allemagne, il rencontre souvent son éditeur, Willy Strecker, des éditions Schott. C'est Strecker qui lui parle de son ami, le violoniste américain Samuel Douchkine. Willy Strecker vante auprès de Stravinsky les talents de violoniste de Samuel Douchkine. Il lui demande s'il n'écrirait pas une œuvre pour violon. « J'hésitais d'abord, écrit Stravinsky, n'étant pas violoniste moi-même, et craignant que la connaissance sommaire que j'avais de cet instrument ne me suffise pas pour résoudre les multiples problèmes qui se présenteraient nécessairement au cours de la composition d'une œuvre d'importance écrite spécialement pour le violon. » Mais Willy Strecker leva mes doutes en me disant que Douchkine se mettrait à mon entière disposition pour me donner toutes les indications techniques dont je pourrais avoir besoin. Dans ces conditions, ce projet me parut attrayant. D'autant plus qu'il m'offrait l'occasion d'étudier d'une façon approfondie la technique spéciale du violon. Ayant appris, poursuit Stravinsky, que j'avais en principe accepté la proposition de Strecker, Douchkine vint à Wiesbaden pour faire ma connaissance. Je ne l'avais jamais vu ni entendu jouer auparavant. Je savais seulement qu'il avait étudié le violon et la musique en général aux États-Unis. Dès ma première rencontre avec Douchkine, je pus constater qu'il était vraiment tel que Willy Strecker me l'avait dépeint. Avant de le connaître, je me méfiais un peu, malgré toute l'importance que j'attachais à la recommandation d'un homme aussi fin et cultivé que mon ami Strecker. Je redoutais en Douchkine le virtuose. Je savais que ce métier réserve à ceux qui l'exercent des tentations et des dangers auxquels ils ne sont pas toujours capables de résister. « Berlin, déclare Stravinsky, fait certainement exception parmi beaucoup de ses confrères. Et je fus heureux de trouver en lui, en dehors de ses remarquables dons de violoniste né, une culture musicale, une finesse de compréhension et, dans l'exercice de son métier, une abnégation tout à fait exceptionnelle. Au début de l'année 1931, Stravinsky se met donc à composer son concerto pour violon. Stravinsky n'est pas violoniste. Et s'il a déjà écrit des œuvres faisant appel au violon, il se trouve tout de même face à un nouveau défi. Connaître les possibilités techniques d'un instrument sans savoir en jouer est une chose, écrit-il. Avoir cette technique dans les doigts en est une autre. Je me rendais compte de cette différence et avant d'entreprendre mon travail, j'en parlais à Hindemith, qui lui est un parfait violoniste. Il me donna non seulement tout apaisement, mais ajouta encore que ce fait contribuerait précisément à me faire éviter une technique routinière et donnerait naissance à des idées qui ne seraient pas suggérées par le mouvement accoutumé des doigts. C'est donc en étroite collaboration avec Samuel Douchkine que Stravinsky avance sur son concerto pour violon. Dans le courant de l'hiver, se place une anecdote racontée par le violoniste. Alors qu'ils déjeunent ensemble un jour à Paris, le compositeur sort de sa poche un morceau de papier et il écrit un accord de trois sons très éloignés les uns des autres, demandant à Douchkine si c'était jouable. La réponse fuse « Non !»« Quel dommage !» regrette Stravinsky. Rentré chez lui, tout de même, le violoniste essaye l'accord, qui finalement se place très bien sous les doigts. Il téléphone vite au compositeur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Celui-ci est soulagé, parce que cet accord, qui commence chacun des quatre mouvements, est en quelque sorte le passeport du concerto. Thank you. Stravinsky travaille à son concerto pour violon à Nice au printemps 1931. Samuel Douchkine suit l'avancement, dixit le compositeur, avec ardeur et compréhension, ce qui lui rend la tâche particulièrement agréable. Mais Stravinsky est toujours très occupé et il doit s'interrompre pour donner des concerts, puis pendant l'été pour déménager. Il s'installe en Isère, à Vorep, tout près de Grenoble. Douchkine, qui l'a suivi, vient le voir tous les jours et il étudie au fur et à mesure ce que le compositeur a écrit. Le 23 octobre 1931, c'est enfin le grand jour. Douchkine et Stravinsky sont fin prêts et ils créent le concerto pour violon dans la salle de la Philharmonie de la Bernauer Straße. Stravinsky est déçu par la qualité de l'orchestre, qui n'est pas à la hauteur. Néanmoins, les critiques sont suffisamment louangeuses sur l'œuvre pour que sa réputation ne tarde pas à se répandre partout, en Europe et aux États-Unis. Capriccio, le final du concerto pour violon d'Igor Stravinsky, David Oistrakh au violon avec l'orchestre L'Amoureux, dirigé par Bernard Haitink, un enregistrement de 1963. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolme pour les recherches et le site, Claire Levasseur pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.